Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé sera présidé et animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Soyez toutes et tous les bienvenus à ce temps de respiration, ce temps de culte. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Je vous invite à entrer dans ce temps de recueillement avec un moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l'on soupçonne à peine. Nous te louons pour tout ce qui se dit, pour tout ce qui se fait, mais ne se voit pas forcément. Nous te rendons grâce pour les rencontres de chaque instant, pour les gestes gratuits, pour les regards, les sourires, pour le silence gardé aux portes de la révolte, pour le pardon donné au lieu de la vengeance, pour la parole ajustée à la place de l'insulte, pour la prière intime au creux de nos vies. Nous te louons pour l'inutile en apparence, pour le bien que procure ta présence discrète et pour la paix intérieure au milieu des tourments. Amen. Thank you.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia.
Pour notre méditation d'aujourd'hui, je vous propose un passage de l'Évangile de Luc au chapitre 10, un passage bien connu qui se situe entre les versets 25 et 37. Un spécialiste de la loi religieuse se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? Jésus lui dit : Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? Il lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit : Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit : C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi, fais de même.
Oh,
Il y a dans la Bible des phrases qui nous semblent évidentes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'idéal des relations humaines est là, concentré dans ces quelques mots. Et pourtant, si ce verset nous parle toujours avec la même force, c'est bien parce que nous avons du mal à le mettre en pratique. Quelqu'un disait en souriant, « Le problème avec aimez-vous les uns les autres, on le sait, c'est les autres. » Ces autres qui nous dérangent parce qu'ils pensent autrement, parce qu'ils font autrement. Aussi, cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » mérite d'être méditée. Méditée jusque dans chacun de ces mots, parce qu'aucun finalement ne va vraiment de soi. « Tu aimeras » ne va pas de soi. Est-ce qu'on peut faire de l'amour une injonction ? Ton prochain ne va pas de soi. Le spécialiste de la loi religieuse pose d'ailleurs la question à Jésus, « Mais qui est exactement mon prochain ? Est-ce que tu peux me le délimiter précisément pour que je sache le reconnaître, pour que je sache qui je suis appelé à aimer ? Ce sera plus facile. » Sans parler de ces trois petits mots, « comme toi-même ». Tu aimeras l'autre, ce prochain, comme toi-même. Finalement, à bien y réfléchir, cette phrase a de quoi surprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on se serait peut-être plutôt attendu de la part de la Bible à quelque chose du style « Oublie-toi un peu, mets ton ego de côté, fais un peu de place pour l'autre ». Mais non, avec cette phrase, le texte biblique nous dit « Ne t'oublie pas toi-même lorsque tu fais un peu de place pour l'autre ». Et même cela va plus loin puisqu'il ne s'agit pas seulement de donner un peu d'attention à cet autre et à soi-même. Le verset va jusqu'à utiliser le verbe « aimer ». En somme, si je comprends bien la phrase, il y a deux sujets, il y a l'autre et il y a toi, toi-même. Entre les deux sujets, il y a ce verbe « aimer ». Sans oublier, très important, ce petit mot « comme » qui dirige avec une même force, avec une même intensité, le verbe « aimer » vers l'autre et vers toi-même. Ainsi, le verset appelle à aimer d'un même amour le prochain et soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez étrange quand même, cet encouragement à l'amour de soi. L'être humain n'a-t-il pas déjà trop tendance à s'aimer lui-même ? Est-ce que l'amour de soi ne nuit pas au contraire à l'amour du prochain ? Non, le texte biblique nous dit que les deux vont de pair. On ne peut aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Les deux partenaires de la relation sont à respecter et à aimer avec une égale dignité. À condition, évidemment, de ne pas confondre invitation à s'aimer soi-même et amour propre. Il ne s'agit pas dans ce verset d'aimer une image idéalisée de soi-même. Il s'agit d'aimer en soi non seulement ses propres qualités, mais aussi ses propres fragilités. Aimer au sens d'accepter, au sens de vivre en paix avec elles. Au sens de pouvoir les recevoir et les regarder en face, en vérité, pour potentiellement, ici ou là, s'améliorer, tout en sachant que la perfection ne nous est pas accessible. S'aimer soi-même. Accepter sereinement en soi les mêmes fragilités et les mêmes défaillances que l'on trouve chez les autres et qui nous agacent chez les autres. S'accepter à côté de notre image idéalisée de nous-mêmes. C'est peut-être, si on y réfléchit, ce qu'il y a de plus difficile dans cette drôle de phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Accepter les défaillances des autres, bon, passe encore. On y arrive assez facilement. On arrive à reconnaître qu'effectivement, ils ne sont pas parfaits. Mais reconnaître ses propres défaillances, c'est un défi beaucoup plus difficile à relever. Cela explique sans doute pourquoi c'est une thématique qui revient régulièrement dans le Nouveau Testament et notamment dans les paroles de Jésus. On se souvient, vous savez, de ce passage de la paille et de la poutre au chapitre 6 de ce même évangile de Luc. Un passage dans lequel Jésus dit « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?» reconnaître tranquillement ses propres défauts, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Cela demande un amour qui permet de vivre en sérénité avec toutes ces petites choses que l'on a du mal à accepter en soi. Or, il nous arrive régulièrement de nous décevoir nous-mêmes. Lorsque, par exemple, dépassés par la fatigue ou les rancœurs du quotidien, nous n'offrons pas à notre entourage, et en particulier à ceux que nous apprécions, le meilleur visage de nous-mêmes. Au chapitre 3 de la Genèse, le serpent touche une corde sensible quand il déclare à Adam et Ève que s'ils mangent du fruit défendu, ils deviendront comme des dieux. Nous avons tous, plus ou moins inconsciemment, le désir pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos collègues aussi parfois, d'être un peu comme des dieux, c'est-à-dire des êtres parfaits, irréprochables, pourvus de qualités qu'ils sauront apprécier et qui pourront, nous l'espérons, leur apporter quelque chose. Et nous nourrissons en secret une sourde animosité contre nous-mêmes lorsque nous constatons que ça n'est pas toujours le cas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même veut donc dire à la fois cet autre que tu croises, tu l'aimeras malgré ses travers qui te dérangent, mais tu n'oublieras pas de t'aimer toi aussi malgré tes propres imperfections. Tu seras en capacité de les regarder en face sans les nier, sans quoi l'amour du prochain n'a aucune chance de se réaliser. Le prochain, le deuxième mot à méditer dans cette phrase. Jusqu'où s'étend cette notion de prochain ? Qui exactement suis-je appelé à aimer comme moi-même ? Dans le judaïsme du temps de Jésus, on débattait beaucoup autour de cette question, et les avis évidemment divergeaient. Les uns voyaient dans ce prochain tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, à quelque peuple ou à quelque religion qu'ils appartiennent. D'autres, plus restrictifs, ne considéraient comme leur prochain que les membres du peuple d'Israël. Ils excluaient donc de cet appel à aimer tous ceux qui étaient d'une religion différente, y compris les Samaritains. Mais d'autres étaient encore plus restrictifs, puisque pour eux, le prochain se limitait à celui ou à celle qui, à l'intérieur même du judaïsme, appartenait à la même tendance religieuse qu'eux. Parce qu'évidemment, comme notre christianisme et même comme notre protestantisme d'aujourd'hui, le judaïsme du 1er siècle connaissait des tendances théologiques différentes. Et à l'intérieur de ces tendances, certains pensaient qu'ils incarnaient le véritable judaïsme à l'exclusion des autres. La rugosité de l'amour du prochain est de chaque époque. Quelqu'un, un spécialiste, vient donc demander à Jésus de prendre position dans ce débat. Il lui demande « Qui est mon prochain ?» Et Jésus répond, comme à son habitude, avec une petite histoire, avec une parabole dans laquelle il y a, vous l'avez noté, de nombreux personnages. Parmi ces personnages, tous sont identifiés. Tous appartiennent à une catégorie sociale aisément repérable. Il y a les brigands, il y a le prêtre, il y a le lévite, il y a le samaritain, il y a l'aubergiste. Un seul fait exception, c'est le blessé étendu sur le bord de la route qui symbolise le prochain. Nous ne savons pas s'il est païen, s'il est juif, s'il est membre d'une tendance théologique particulière. Nous ignorons son métier, ses occupations. En ne donnant aucune indication sur son identité, Jésus répond très clairement à la question « Qui est mon prochain ?» Le prochain n'est pas celui qui appartient à telle ou telle catégorie. Le prochain, c'est celui qui survient. C'est celui que l'on croise soudain sur sa route alors qu'on ne s'y attendait pas. Celui que l'on peut voir avec ses yeux, toucher avec ses mains, entendre avec ses oreilles. Jésus dit, ce prochain, c'est celui que tu côtoies, celui que tu rencontres. Mais, subtilement, il ajoute cette question, suffit-il de se croiser pour se rencontrer vraiment ? Beaucoup ont croisé la route de cet homme blessé ce jour-là, mais un seul l'a réellement rencontré. On en arrive enfin au mot le plus important et le plus difficile de cette phrase. C'est le verbe « aimer ». tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce seulement possible d'aimer spontanément et sans distinction celui que l'on croise sur sa route ? Le philosophe protestant Kant écrit que l'amour ne se commande pas, et en faire un devoir, ça n'a pas de sens. On peut essayer de se comporter honnêtement, équitablement envers les autres, on peut se montrer juste, bienveillant à leur égard. Dans le meilleur des cas, on peut même essayer de les aider quand ils en ont besoin. Mais l'amour, lui, ne se décide pas. Il y a des gens pour lesquels, malheureusement, sans qu'on puisse expliquer pourquoi, nous ne ressentons pas particulièrement de sympathie. Dans le langage courant, on dit qu'on n'a pas d'atome crochu avec eux. C'est comme ça. Nous pouvons nous engager à ne pas leur nuire et à nous conduire convenablement avec eux. Mais nous engager à les aimer par un acte de volonté, ça ressemble quand même pas mal à l'une des illusions, c'est-à-dire à l'une des poutres qui traînent dans notre œil. Aussi, si l'on fait de cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » un commandement, une loi à observer, on en fait alors quelque chose d'accablant et de désespérant. Or, l'Évangile n'est pas, comme certains le pensent, la mauvaise nouvelle de notre culpabilité. L'Évangile est une bonne nouvelle. C'est dans l'étymologie même du mot. Évangile, euangelion en grec, ça veut dire bonne nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle du partenariat que Dieu tisse avec nous, pour nous donner son amour, un amour indéfectible, un amour capable de créer en nous un être nouveau, un être qui, en capacité de s'aimer et libéré d'une partie de ses chaînes, saura construire un monde nouveau qui a du sens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le verbe « tu aimeras » n'est pas à l'impératif, il est au futur. Ce n'est pas « aime ton prochain comme toi-même », mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une obligation, c'est un horizon. Ce n'est pas une loi qui écrase, c'est une promesse qui libère et qui nous montre le chemin. Elle ne nous dit pas « voilà ce que tu dois faire » en nous imposant des exigences impossibles à tenir. Elle nous dit « voilà ce que Dieu va créer en toi et avec toi. Voilà ce qu'il a déjà commencé et ce qu'il continuera à faire. Il fera de toi, de nous, des créatures nouvelles, capables d'aimer dans la mesure même où, fort de son amour à lui, nous avons réussi ce pari un peu fou de nous aimer nous-mêmes, guidés et éclairés par la présence et le rêve de Dieu. Amen.
Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal, toutes choses toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi.
Et nous nous retrouvons avec ce texte qui dit en quelques mots notre foi. Je vous invite à confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'esprit d'adoption qui me donne Dieu pour père et mes contemporains pour frères et sœurs. Je crois en l'esprit de Dieu qui anime notre foi, qui nous renouvelle intérieurement et fait de nous un être nouveau. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie. Amen. Et nous nous retrouvons dans la prière les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous voulons déposer notre vie entre tes mains, nos préoccupations comme nos instants de joie. Aide-nous à ôter de notre esprit l'idée terrible que nous n'avons pas le temps. Le temps de vivre, le temps d'aimer, le temps de créer. Enrichis, Seigneur, notre temps des nuances de la vie, celle du calme, de la joie, de la tendresse et de l'amour, celle du courage, de la force ou du repos. Aide-nous à accueillir et à rencontrer les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Réveille en nous le désir d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps. Nos cœurs se peuplent de noms et de visages, de projets et de vie que nous te remettons. Ensemble, reliés les uns aux autres en une communion de prière, nous te remettons tous nos frères et toutes nos sœurs, en te disant cette prière que Jésus le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Fixer leur cours.
Recevons, avant de nous quitter, cette parole de bénédiction. Amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ. Si vous avancez avec lui, quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est là. Si nos semblables sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit. Recevons de la part de Dieu, dans notre cœur et dans notre vie, sa bénédiction, sa joie et sa paix. Allons sur nos chemins, nourris de sa présence et de son amour. Amen.
La grâce de Dieu sera sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-eglise-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.